Le journal présenté par Louis-Valentin Lopez.
Bonsoir. 235 000 déplacés en 2 semaines. L'ONU alerte sur l'exode massif de populations dans le nord-ouest de la Syrie à cause des combats. Dans le nord-est, un calme relatif, mais nombre d'habitants ont trouvé refuge dans des camps de fortune. Noé Pignède les a rencontrés. Dans le nord de l'Inde, les manifestants maintiennent la pression malgré les répressions. Ils s'opposent à une loi qui discrimine la communauté musulmane. Le reportage d'Antoine Guinard. La mise au point aujourd'hui du Quai d'Orsay avec l'ambassadeur d'Iran alors que 2 chercheurs français sont détenus par Téhéran. Explication de Bertrand Galichet. La limitation à 80 km/h sur les routes départementales assouplie. Les présidents des conseils départementaux pourront repasser à 90 sous condition. Est-ce faisable? N'aurait-il pas fallu appliquer cette recette dès le départ? Nous poserons ces questions à André Akari, président du département de Saône-et-Loire. Et puis des syndicats de transport en commun nantais ne font pas dans la demi-mesure. Pour manifester leur colère face à la réforme des retraites, ils viennent de déposer un préavis de grève de 6 mois. Dans le nord-ouest syrien, plus de 235 000 déplacés en 2 semaines à la suite de récents combats. C'est une estimation de l'ONU. Les bombardements du régime syrien et de son allié russe dans la province d'Idlib se sont intensifiés. En parallèle, dans le nord-est de la Syrie, les combats entre les forces du Kurdistan syrien et les milices soutenues par l'armée turque sont à l'arrêt, ou presque. Mais la majorité des habitants qui peuplaient cette zone frontalière ont dû quitter leurs terres et trouver refuge dans des camps de déplacés sans espoir de retour. Le reportage de Noé Pignède.
C'est un camp de fortune au milieu d'un champ boueux, des centaines de tentes blanches où s'entassent les familles de déplacés. Nous sommes à une 50aine de kilomètres de la ligne de front. 4700 personnes vivent ici depuis 2 mois, sans eau courante ni électricité. Aïcha Sulta fuit son village sous les bombardements de l'aviation turque.
Tout le monde est parti. Nous avons fui sous les balles et les bombes avec nos vaches, nos moutons et nos enfants. Et maintenant, nous ne pouvons plus rentrer. On nous a dit que les milices de la Turquie nous avaient volé notre maison et tout ce que nous avions.
Un peu plus loin, un vieil homme nous accueille dans sa tente et nous invite à boire le thé. Son village est lui aussi occupé par la Turquie, mais il est parvenu et est retourné à plusieurs reprises à l'aide de passeurs. Il refuse de nous donner son nom par peur de représailles.
Si je vous dis comment je m'appelle, ils me couperont la tête, car malgré l'occupation des milices turques, je suis retourné plusieurs fois dans ma maison, en secret. Mais il n'y a plus rien, ils ont tout volé, toutes mes affaires, ma moto, mon argent. Il ne reste que les murs. Ces gens sont juste venus pour nous piller, ce ne sont que des voleurs.
Selon les autorités kurdes, l'offensive turque dans le nord-est syrien il y a 2 mois a provoqué près de 200 000 déplacés. Des civils kurdes, arabes et chrétiens qui ont fui les combats et qui refusent désormais de retourner vivre dans une région où Ankara fait la loi.
Noé Pignède de RFI pour France Culture, envoyé spécial en Syrie. Le groupe État islamique revendique dans un communiqué l'attaque d'Arbinda au Burkina Faso, l'assaut d'un poste militaire qui avait mardi coûté la vie à 35 civils et 7 soldats burkinabés. Daesh, qui on l'apprend, a aussi diffusé une vidéo hier soir. La vidéo montre selon eux l'exécution de 11 chrétiens au Nigeria le 25 décembre, en représailles notamment à la mort d'Abou Bakar al-Baghdadi, le chef du groupe État islamique. Baghdadi tué fin octobre par les forces spéciales américaine. En Turquie, des peines de prison prononcées à l'encontre de journalistes d'un journal d'opposition. 6 journalistes du quotidien Sojegu, parmi lesquels figure le rédacteur en chef, ont écopé de peines de prison allant de 2 ans et 1 mois à 3 ans et 6 mois. Le journal a condamné le verdict, le qualifiant de tache noire dans l'histoire de la presse et du droit. 27 personnes tuées en 2 semaines dans le nord de l'Inde. La répression envers les manifestants se poursuit. Dans l'état d'Uttar Pradesh, plus de 5000 personnes ont été déplacées en détention préventive. Mais les manifestants ne lâchent pas. Ils dénoncent la nouvelle loi sur la citoyenneté dénoncée comme étant discriminatoire pour les musulmans. Antoine Guinard.
Les manifestants sont arrivés au compte-gouttes devant les bureaux du gouvernement d'Uttar Pradesh à New Delhi. Un à un, ils ont tous rapidement été encerclés par les policiers, puis embarqués par ces derniers à bord de jeeps ou de bus réquisitionnés pour l'occasion. Aucun d'entre eux, ou presque, n'a eu le temps de s'exprimer devant les dizaines de caméras de télévision venues couvrir cette manifestation incessamment étouffée par les forces de l'ordre. Seuls quelques intrépides ont eu le temps de dénoncer la répression du gouvernement nationaliste hindou au pouvoir à New Delhi et en Uttar Pradesh.
Pourquoi frappez-vous les étudiants? Pourquoi vous ne nous laissez pas nous exprimer? Vous faites passer cette loi discriminatoire, vous voulez qu'on se taise?
Des centaines de personnes ont toutefois pu se rassembler devant la grande mosquée de Delhi pour manifester après les prières du vendredi en milieu d'après-midi. La communauté musulmane se dit victime d'une répression policière sans précédent dans l'état d'Uttar Pradesh. Le gouvernement régional a par ailleurs suspendu Internet dans près d'un tiers de la région ce vendredi afin d'éviter la propagation de la violence, tout en donnant carte blanche à la police.
La correspondance en Inde d'Antoine Guinard pour France Culture. L'ambassadeur d'Iran à Paris convoqué aujourd'hui au Quai d'Orsay. Le ministère des Affaires étrangères a rappelé aux diplomates l'exigence de voir libérer sans délai deux chercheurs, Roland Marshall et Fariba Adelkha. La situation de cette dernière est particulièrement préoccupante. Elle a entamé depuis mardi une grève de la faim et de la soif avec une chercheuse australienne. Elles ont aussi diffusé une lettre. Bertrand Galichet.
La lettre que la franco-iranienne Fariba Adelkha et sa collègue australienne Kili Moore Gilbert annonçant leur grève de la faim ont pu faire sortir de la prison d'Evin prouve qu'il y a urgence. Le chercheur français Roland Marshall, arrêté lui aussi en juin, est également toujours détenu. La grève de la faim entamée par les deux femmes est un choc pour leur comité de soutien. Richard Banegas, professeur à Sciences Po.
Cela nous a saisi évidemment et terrifié à la fois. On a peu d'informations sur leurs conditions de détention. Fariba Adelkha a la double nationalité, les Iraniens ne la reconnaissent pas et donc elle ne peut pas bénéficier des visites consulaires. À la différence de Roland Marshall, on sait qu'elles ont subi l'une et l'autre, et Roland également sans doute, des interrogatoires poussés, donc on peut imaginer les conditions dans lesquelles cela se déroule, de torture psychologique, de torture peut-être aussi physique, on ne le sait pas exactement.
À plusieurs reprises, la France a demandé la libération de ses ressortissants et s'est heurtée à chaque fois à une fin de non-recevoir des autorités iraniennes qui parlent d'ingérence. Aujourd'hui, le Quai d'Orsay dénonce un emprisonnement intolérable et fait part de son extrême préoccupation en réitérant sa demande d'accès consulaire.
Bertrand Galichet, le Quai d'Orsay réclame aussi que les autorités iraniennes fassent preuve d'une totale transparence sur les conditions de détention des chercheurs. La mesure avait exacerbé la colère des gilets jaunes. C'était il y a un an, l'abaissement de la vitesse à 80 km/h sur les routes départementales. Eh bien, il est désormais possible de faire marche arrière, de revenir aux 90 km/h, en tout cas par endroit. La mesure fait partie de la loi d'orientation des mobilités publiée hier au Journal officiel. On s'en souvient aussi, la décision avait provoqué une levée de boucliers chez les élus locaux. André Akari, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du département de Saône-et-Loire. Alors, est-ce que vous comptez appliquer, vous, ce retour aux 90 km/h?
Alors, partout où c'est possible, puisque à la lecture de la loi, c'est assez complexe finalement. On ne reviendra pas aussi facilement et dans les semaines qui suivent aux 90. C'est assez complexe parce qu'il faut qu'il y ait un comité de sécurité routière, il faut qu'il y ait une entente aussi avec le préfet. Donc effectivement, là où on pourra le faire, on va le faire.
D'après ce que j'ai compris, ça peut coûter cher. Est-ce que ça va être le cas ?
Oui, bien sûr, parce que puisque la règle commune aujourd'hui, le code de la route, c'est 80 km/h, et à partir du moment où vous souhaitez remettre certaines voiries à 90 km/h, il y a une signalétique à refaire, mais d'une manière extrêmement précise et avec de très très nombreux panneaux, puisque vous n'êtes plus dans la règle commune, vous sortez de la règle commune pour passer à 90.
Donc il faut remettre plein de panneaux 90.
Voilà, on en a enlevé quelques-uns l'année dernière, et aujourd'hui il faut en mettre beaucoup plus, avec une signalétique beaucoup plus approfondie, c'est-à-dire toutes les voies qui vont rejoindre la route que vous aurez passée à 90, vous devez le signaler. Ça veut dire, en effet, beaucoup d'argent public que, quelque part, on aura un peu jeté par les fenêtres.
Vous avez déjà fait une estimation, vous, ou pas encore ?
Non, pas encore, parce que, tout d'abord, je veux voir avec mes collègues présidents des départements voisins, comme la Côte d'Or, le Jura, l'Ain, etc., pour avoir une vraie cohérence, et c'est-à-dire les routes qui viendraient d'autres départements, qu'on soit exactement sur la même harmonisation de vitesse, de façon à ce que le citoyen soit le moins perdu possible.
D'accord, on parlait des préconisations prises, donc j'en énumère. Ne pas repasser à 90 sur les tronçons de moins de 10 km, sur les portions fréquentées par des engins agricoles. Ça fait beaucoup de conditions quand même, surtout pour des départements ruraux comme le vôtre, comme la Saône-et-Loire.
Oui, non mais c'est devenu complètement illisible. C'est vraiment, depuis la prise de cette mesure de passer à 80 jusqu'à maintenant, on est vraiment sur un parcours chaotique de réflexion, ce qui est dommage parce que finalement, il y a un an, on aurait tout simplement fait une concertation avec les présidents de département qui connaissent très bien leur tissu de voirie. Moi, j'ai 5263 km de voirie départementale. On connaît exactement les zones où, en effet, on peut limiter la vitesse ou, au contraire, on pouvait la laisser à 90. Il y aurait une vraie concertation au départ. On aurait fait un très bon travail.
Mais c'est ça, vous en voulez au gouvernement de ne pas avoir décrété le cas par cas dès le départ.
Mais évidemment, aujourd'hui, on est parti sur une complexité, finalement, d'un maillage, les citoyens vont être complètement perdus finalement parce que on aura un nombre de vitesses, d'adaptations de vitesses considérables, en sachant que les routes nationales, elles, resteront à 80 km. Comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent? On a complexifié finalement quelque chose qui aurait pu rester assez simple et assez lisible.
Édouard Philippe, en janvier dernier, annonçait des chiffres historiques à la baisse de la mortalité routière après 6 mois de 80 km/h. Ça vous fait pas réfléchir à deux fois quand même?
Alors, réfléchir à deux fois, moi, j'aimerais bien savoir d'où ils sortent leurs chiffres. D'abord parce qu'en Saône-et-Loire, c'est pas le cas. J'aimerais bien connaître l'analyse, en effet, de ces accidents mortels sur les portions où ils ont lieu pour vraiment estimer que ça vient vraiment de la baisse de la vitesse. En tout cas, ça n'a pas été le cas dans le département de Saône-et-Loire, ça a été l'inverse.
Il y aura en fait cette commission départementale de sécurité routière qui devra examiner au cas par cas le retour aux 90 km/h. Et par exemple, imaginons qu'il y ait un accident mortel, vous craignez d'être traîné en justice.
C'est tout à fait possible. Et puisque le ministre de l'Intérieur nous dit qu'il pourra se regarder dans la glace, je ne sais pas s'il le fait de temps en temps, mais en tout cas, c'est ce qu'il a annoncé lui. La responsabilité qui serait donnée au président de département, c'est-à-dire la responsabilité pénale en cas d'accident, et franchement, avoir pendant un an tergiversé autant sur la limitation de vitesse et sortir ce texte de loi comme ça, tel qu'il est présenté, c'est quand même du grand n'importe quoi.
Merci André Acari d'avoir répondu à nos questions sur France Culture, président du département de Saône-et-Loire. Un préavis de grève de 6 mois, c'est ce que viennent de déposer les syndicats de transport en commun de l'agglomération de Nantes. 6 mois de plus alors que la durée de la grève contre la réforme des retraites a dépassé celle de 1995. Écoutez Jean-Philippe Adobati, délégué Sud Solidaire. Pour lui, il s'agissait de l'unique solution pour faire perdurer le mouvement.
Les salariés, depuis avant le 5 décembre, nous demandent à pouvoir se mobiliser, ce qui est aussi, comme vous le disiez, assez rare sur les mouvements nationaux. Ça arrive très peu souvent à la CENITAM. Donc, c'était le seul moyen pour permettre aux salariés, syndiqués ou non, de pouvoir se mobiliser et d'aller dans les cortèges de manifestations quand ils ont lieu à Nantes. Pour le projet de réforme des retraites, on a une forte demande des salariés, syndiqués ou non d'ailleurs, qui approchent les syndicats de la CENITAM en disant qu'ils ont le souhait de pouvoir se mobiliser et manifester aussi. Et donc, ils ont besoin d'un préavis. Donc, du coup, les syndicats de la CENITAM, je pense, sont plutôt « ravis », entre guillemets, bien sûr, parce que ça fait plaisir à personne de perdre du salaire sur une journée de grève. Mais on est plutôt enthousiasmé que les gens souhaitent se mobiliser, surtout sur une réforme aussi énorme et aussi avec autant de conséquences. Ça fait du bien de voir que les gens se sentent concernés, bien sûr.
Jean-Philippe Adobati, joint par nos confrères de France Bleu Loire-Océan. Et puis ce sera encore compliqué de se déplacer ce week-end. En moyenne, demain et dimanche, 6 TGV sur 10 et 1 Transilien sur 5 circuleront, annonce la SNCF. La grève se poursuit aussi à la RATP avec 6 lignes de métro toujours fermées demain. À noter enfin ce vendredi, le Conseil constitutionnel qui valide une mesure polémique, la traque des fraudeurs fiscaux présumés sur les réseaux sociaux dans le cadre de la loi des finances 2020. Mais les sages préviennent, l'expérimentation devra garantir le respect de la vie privée. Ils demandent que ne soient exploités que les contenus délibérément divulgués sur Twitter, Instagram ou encore Facebook. La météo de ce samedi, nous pouvons dire merci à l'anticyclone. Il s'installera sur tout le pays. Un temps majoritairement calme et sans pluie. Les températures minimales, en revanche, seront en baisse de 2 à 6 degrés, de 9 à 11 sur les bords de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il a été préparé avec l'aide de Brice Garcia à la technique, Alex Dang.